Bien, nous sommes le 26 février 2009 à mon cabinet et je suis aujourd'hui avec François Robert Zacco, qui est un ethnologue qui m'a invité à son émission sur Aligre FM 93.1 « Un autre regard sur le monde ». C'est le titre de son livre « Un autre regard sur le monde, l'Occident ». À l'épreuve de la société Badjo, aux éditions Audibert, paru en 2006. Donc, François Robert Zacco, vous êtes ethnologue et vous avez étudié, vécu dans la société Badjo. Et je vous propose aujourd'hui de nous parler particulièrement de l'accueil des enfants dans cette société qui, à la lecture de ce livre, est tout à fait étonnante. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelques mots de cette société pour que nous puissions nous repérer un petit peu ?
Bien sûr. Donc il s'agit d'une société de nomades de la mer, donc c'est des conditions de vie très particulières déjà, situées dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire une aire géographique qui va de la Birmanie, en tout cas la Thaïlande ou la Malaisie, jusqu'en Nouvelle-Guinée, et qui va de Philippines du Sud à l'Indonésie du Sud. Donc c'est une aire géographique très très large, 5000 km de long, 3000 de large, et dans laquelle vivent en tout cas les nomades de la mer, ou dans laquelle ils nomadisaient. La plupart maintenant vivent dans des villages chopinotis, qui sont bâtis au-dessus de l'eau et loin du rivage. C'est-à-dire c'est une population qui a toujours eu une osmose, et nous allons y revenir en ce qui concerne l'enfant, avec le milieu marin, avec l'eau de mer, et à l'environnement auquel ils sont très adaptés, très bien adaptés économiquement, et toutes leurs croyances, toutes leurs mythes sont en direction de ce milieu marin. Voilà en quelques mots, cette population qui est au nombre très peu définissable, puisqu'il faudrait en principe parcourir toute la géographie immense pour recenser le nombre de villages. Approximativement, ils peuvent être entre 300 et 500 000 individus. Donc c'est une population à part entière, un peuple, avec un nom, les Badjo, mais nous allons peut-être y revenir, qui s'appelle entre eux les Sama, et non plus les Badjo, c'est l'extérieur qui les appelle les Badjo, avec une langue bien à eux, le Badjo, des croyances, etc., une identité spécifique.
Dites-moi, vous y êtes allé quand ?
Alors le premier séjour remonte à 1976 à peu près, et c'est le premier terrain, donc en anthropologie on dit terrain, qui va durer deux ans, pour après y retourner pour différentes missions de durée très variable, trois mois, six mois, ça dépend. Donc la première mission a été la plus longue, et ça n'a pas été arrêté jusqu'à il y a trois ans à peu près.
Vous m'avez dit qu'il vous avait carrément adopté. Et vous vous êtes laissé adopter.
Pas une obligation, mais quand même c'est un passage un peu obligé pour l'anthropologue qui veut être perçu positivement, en tout cas accepté, pour qu'il puisse suivre tous les modes de vie, tous les rituels, toutes les façons d'être des gens chez qui il vit. Donc l'adaptation d'abord, parce qu'il faut y revenir aussi, c'est un environnement très particulier auquel il faut s'adapter, et l'adoption par la population, oui, ça a été mon cas, où ils m'ont vraiment adopté, ils m'ont inclus dans leur pratique chamanique, c'est-à-dire ils m'ont appris, j'ai appris auprès d'eux des choses, des formules, des façons de soigner, des techniques, des croyances, des croyances magiques secrètes, c'est un savoir qui n'est pas transmis à tout le monde. Donc j'ai été, c'est vrai, intégré, ça a été. Vous allez me demander pourquoi. Parce que c'est une. Je ne sais pas, je dévance peut-être votre.
Non, mais bien sûr.
Votre question. Alors pourquoi ai-je cherché à être adopté par cette population ? Déjà au point de vue de la. de l'obligation, disons, d'approcher la culture. C'est une population qui est assez particulière dans la mesure où elle n'est pas... Elle est une population très fermée sur elle-même, qui ne laisse pas n'importe quel regard s'approcher de l'âme de ce qu'ils ont, hein, de ce qu'ils sont. Donc la façon d'approcher cette âme était de jouer, enfin de pas de jouer l'anthropologue de l'observation participante, comme on dit, mais vraiment d'approcher le sensible. Et ce sensible-là, cette poésie de vie, cette relation au cosmos qui est très importante chez eux, il fallait faire sien de tout ça pour être accepté, pour qu'ils me perçoivent comme une personne respectant cela. C'est-à-dire que c'est une population qui met beaucoup de barrières par rapport à l'extérieur, mais quand elle voit que l'individu qui prétend les observer veut aller plus loin et n'est pas là simplement en touriste, là ils peuvent s'ouvrir à eux. Donc c'est pour bien les comprendre en fait.
Alors ils vous ont appris leur langue, comment avez-vous appris leur langue?
Je connaissais donc l'indonésien que j'ai pratiqué, que j'ai appris sur place en Indonésie, et chez eux j'ai pratiqué la langue déjà sur le tas, hein, en prenant des notes, et puis aussi avec un ami qui me donnait des mots. Tous les jours j'allais le voir et il me donnait des mots.
Les exercices.
Oui, on allait, puis moi je lui apprenais quelques mots en anglais parce qu'il était très désireux de...
Il a appris
de, et il connaissait quelques phrases, voilà, il connaissait quelques phrases qu'il était tout heureux de dire de temps en temps, c'était la même phrase. Et donc moi j'ai intégré quelques mots de Bajo au départ, et puis ça a été le dialecte en fait.
Est-ce que vous parlez Bajo chez vous en ce moment quand vous êtes à Paris?
Moi-même?
Oui.
Bien entendu, oui. Je me parle.
Et vous entendez?
Oui, oui, oui. Et puis je parle aussi à mes enfants de temps en temps.
Je leur comprenne?
Je leur dis quelques mots. Oui, maintenant ils commencent à capter quelques mots, oui, oui.
Donc c'est pas une langue qui a disparu quand vous êtes parti?
Ah non, 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 non. Ça c'est vraiment une langue très vivante, très importante, qui est un des traits culturels fondamentaux de cette société, pas le seul, puisque l'environnement est aussi fondamental, vital, mais la langue est très importante.
Alors vous viviez dans quelles conditions? Vous aviez une pirogue, vous viviez sur une maison sur pilotis?
Qui dit approcher, comprendre, donc ou être adopté par cette population, dit forcément vivre comme eux. Alors vivre comme eux, c'est quoi? C'est l'un des tests que cette société veut faire subir, disons entre guillemets, à l'individu qui veut les comprendre. C'est de voir s'il est vraiment capable ou s'il a la volonté de vivre comme ils vivent. C'est-à-dire avec les difficultés dans un environnement qu'ils savent très bien, eux, très extraordinaire. Pas habituel, vivre au-dessus de l'eau, sans terre, sans marcher, etc. Bon, donc j'étais amené forcément à avoir une maison sur pilotis, ma pirogue, et vivre comme eux, avec les déplacements en pirogue et tout ce qui en découle, quoi.
Bien, alors revenons à cette question de l'accueil des enfants. Quand nous avons eu le projet de faire cet entretien, vous m'avez dit vous-même, ça serait une bonne idée de le centrer là-dessus. Je vous ai dit que je travaillais dans un centre maternel à la Maison de la Mère et de l'Enfant depuis maintenant 24 ans, où on accueille des enfants, essentiellement actuellement des Africaines et des enfants d'Africaines, mais on a eu de tout. Alors, il y a un rôle particulier dévolu au placenta dans la société Bajo. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que les auditeurs n'ont pas forcément lu votre livre, ni le moindre savoir sur cette société?
Oui. Donc c'est un aspect, si vous l'avez relevé, qui vous semble original, particulier, déjà, enfin, parce que moi je suis dedans, je veux dire, je suis dans la culture, pour moi ça ne me semble pas étonnant, et donc moi ça m'intéresse que vous ayez relevé cet aspect culturel. Bon, alors pour les auditeurs, hein, pour les personnes intéressées, alors le placenta c'est quoi? Donc c'est un... comment pourrait-on dire, ce n'est pas un objet, puisque je vais l'expliquer, c'est une personne, c'est un élément, disons, qui fait partie de l'être humain et qui va devenir très très important. Pour le Bajo, pour l'individu par le Bajo, la personne Bajo, et tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Le placenta est considéré pour les Bajo comme l'aîné. L'aîné de l'enfant. Bon. L'aîné de l'enfant, pourquoi? Déjà parce que l'enfant sort en premier, et donc il considère que l'aîné, le placenta, a aidé son frère ou sœur cadet à sortir en le poussant. Donc c'est un rôle qui lui est conféré. Disons. Ce placenta, alors je vais parler un peu de l'accouchement, parce que c'est à travers l'accouchement que l'on décode les valeurs accordées au placenta. Au moment de l'accouchement, donc je disais que l'enfant sort en premier, le placenta reste à l'intérieur du ventre de la mère et on s'occupe de l'enfant. On le nettoie, on le lave un tout petit peu, on ne l'habille pas encore, et puis après seulement, la chamane, hein, accoucheuse, sort le placenta. Et à ce moment-là, va se dérouler les étapes très importantes du rituel de l'après-accouchement, si vous voulez. La chamane va couper le cordon ombilical, d'une certaine manière. Elle va définir un espace très précis, entre 15 et 20 cm du ventre, du nombril, disons, de l'enfant. Et elle va faire deux garrots au placenta. Et entre ces deux liens, elle va couper le placenta. Mais avant de faire ces deux liens, elle va faire glisser ses doigts le long du placenta, le long du cordon ombilical, du placenta à l'enfant pour qu'il y ait une nyawa. Une nyawa, c'est la force vitale, c'est la vie. La vie.
Ça s'écrit comment?
Nyawa, lettre latine, disons, N-Y-A-W-A. Nyawa. Nyawa, c'est le souffle, la vie, l'esprit, si vous voulez. Elle va faire en sorte, la coucheuse, de faire passer toute la force vitale que le placenta, l'aîné, est supposé donner au cadet, de façon à ce qu'il n'en reste pas. Mais en même temps, en faisant glisser ses doigts sur le cordon ombilical, elle va sentir le nombre de caillots de sang que le cordon ombilical renferme. Pourquoi? Pour compter le nombre d'enfants que ce même enfant qui vient de naître aura une fois adulte. Donc, et ça c'est extrêmement important, c'est là où l'accueil se poursuit vraiment de façon importante. Alors, ensuite va intervenir la coupe du cordon ombilical entre les deux liens dont j'ai parlé, et elle ne va pas se faire n'importe comment. Alors donc, il y a eu la sortie de l'enfant, il y a eu les caillots de sang, donc le nombre d'enfants par la suite, et il va y avoir la coupe du cordon ombilical, ces trois étapes qui sont intégratrices de l'enfant dans le monde des humains. La coupe du cordon ombilical se fait comment? Elle se fait en plaçant sous le cordon ombilical l'endroit où la chamane va couper, en plaçant un morceau d'argile, une pièce de monnaie, et elle va couper le cordon ombilical avec un morceau de bambou très effilé. Et elle va souffler au moment où elle coupe, sur cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ces quatre choses, l'argile, la pièce de monnaie, le bambou et le souffle, représentent les quatre éléments de l'univers. Le feu, le vent, la terre, l'eau. Bon. Et pour les Bajo, et vous voyez comment la question de l'accueil de l'enfant rejoint la conception du monde et de l'être humain pour accueillir un enfant. Les deux sont indissociables. En tout cas, c'est comme ça que pense le Bajo. La chamane va souligner par là l'identité qu'il y a entre l'être humain, c'est-à-dire l'enfant qui vient de naître, et l'univers. Donc il y a un rapport d'identité. L'être humain n'est pas indépendant de l'univers. Comme tout individu est fait des quatre éléments, l'être humain est identique à à l'autre être humain et à l'univers. Donc ça fait un tout, donc nous avons là l'idée de continuité absolument indispensable pour expliquer l'accueil de l'enfant qui commence comme ça.
Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que c'est une chaman et pas un chaman? Il y a un chaman chez eux?
Ah oui, il y a des chamans.
Pourquoi c'est pas un homme?
C'est pas un homme parce que la femme est, je pense, hein, dans toutes les sociétés, supposée pratiquer plus facilement l'accouchement et comprendre les étapes de l'accouchement plus facilement qu'un homme. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des chamans hommes, il y en a plein. Ceci dit, en général, dans toutes les sociétés, c'est vrai que la majorité des chamans sont des femmes.
Alors, le nombre de caillots de sang qui... correspond au nombre d'enfants à venir de cet enfant lui-même. Est-ce qu'elle se le dit? Est-ce qu'elle le dit aux autres? À qui elle le dit? Est-ce qu'elle le note? Comment est-ce que ça fonctionne?
Non, elle le sent et elle le dit éventuellement. Voilà, elle le dit pas tout de suite.
À qui?
Hein, pas tout de suite. Bah, à la famille, à l'entourage.
Comment ils réagissent?
Bah, ils réagissent comme quelque chose de banal. Nous accorderions à cela des informations tout à fait importantes, cruciales, comme une information nouvelle. Pour les badjos, non. C'est pas forcément reçu dans le même état d'esprit. C'est banal, comme est banal l'accouchement. Autour de l'accoucher, puisque moi j'ai assisté à pas mal d'accouchements, ça veut dire que tout le monde peut assister. Autour de l'accoucher, il y a la famille qui passe, les gens qui sortent, qui rentrent, qui rigolent, qui... Bon. Donc l'accouchement n'est pas un événement social caché, particulier, à respecter, ou à... Non, pas du tout. Il est intégré totalement dans la vie quotidienne du village, de la société, et c'est pour ça que l'individu qui vient de naître est intégré aussi facilement est accueilli.
Est-ce que cet individu qui vient de naître est au courant du nombre d'enfants qu'il aura à un moment donné? Est-ce qu'on lui dit?
Je ne sais pas. Peut-être on le lui dit.
Et est-ce que ça correspond à la réalité ou pas?
Ça, c'est encore une façon de voir qui est la nôtre.
Je sais, j'assume.
Oui, j'entendais bien.
J'assume ça, hein, c'est évident. Mais on peut se poser la question.
La question, mais c'est pas une question à, disons, dans laquelle on va chercher la validation de la...
Mais à quoi ça correspond pour vous, ce chiffre? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le dire et de l'avoir dans cette société à un moment donné, qui est déjà une espèce de projection comme ça dans un avenir de cet enfant qui vient à peine de naître?
Ça correspond à ce que vous voulez m'amener à parler, hein, à dire, c'est-à-dire l'accueil de l'enfant, c'est ça. On projette, en comptant le nombre d'enfants que l'enfant qui vient de naître aura, on ne veut pas valider un déterminisme ou un hasard ou un avenir. C'est pas ça l'important. L'accueil de l'enfant et ses gestes ont un objectif, c'est de projeter l'enfant, l'être humain, dans l'avenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de lui donner, de lui confier une existence en tant qu'être humain déjà. Et c'est là où nous avons un formidable hiatus entre ce que les Badjo, par exemple, font et ce que nous pratiquons. Avec une espèce de négation de ce que peut être l'enfant à travers des rituels ou en tout cas des valeurs qui lui seraient associées. Les Badjo, non. Ils font exister l'enfant dans une temporalité à venir, dès sa naissance. C'est-à-dire qu'on lui donne une existence. Alors, j'ai parlé des quatre éléments, c'est-à-dire une association de l'individu avec l'univers. On l'intègre dans l'univers. Le groupe, j'en ai parlé tout à l'heure, il est omniprésent dans cette pièce où tout le monde est là, regarde, etc. Donc, intégration dans le groupe. Oui, donc, intégration dans le groupe du fait de la... de l'accueil par le groupe qui est omniprésent, mais également une intégration de l'enfant qui vient de naître dans son devenir lui-même, dans une temporalité qui sera la sienne et à laquelle sera associé le placenta, pour revenir à votre question de départ. Parce que le placenta, donc là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'enfant qui vient de naître, le cordon ombilical a été coupé, on va s'en occuper, on va le laver, on va le... Et la chamane va s'en occuper d'une façon très particulière, qui a des rituels très particuliers, c'est-à-dire qu'elle va appliquer sur le front, les joues, le ventre, les coudes de l'enfant, des points de poudre de riz, etc. Enfin, différentes manipulations qui ont pour but soit de faire en sorte qu'il ne pleure pas beaucoup, de lui donner le maximum de force, etc. Ensuite, il sera habillé, enveloppé, pour qu'il est mis dans un coin à côté de la maman. Et puis après, on va s'occuper du placenta, qui n'est pas une chose, qui est un être humain. Et je vais en parler.
Il est rejeté à la mer, non ?
Voilà. Alors, avant d'être rejeté, pas jeté à la mer, on va le laver. Bien, on va l'astiquer même, hein, avec de l'eau de mer, et on va le passer dans une natte avec des pierres, et puis un certain nombre d'éléments rituels qui reviennent dans beaucoup d'offrandes, des boulettes de riz, des cigarettes, etc. Ensuite, il va être... tout cela va être bien attaché, et le lendemain uniquement, le chaman va l'emporter dans une pirogue avec deux autres personnes, en général le père, qui pagaie, en mer, loin. Et là, il y a bien entendu des interdits, c'est-à-dire que personne n'aura le droit, donc c'est interdit, de se retourner si jamais on les appelle, etc. C'est un interdit. Une fois en mer, le chaman immerge le petit paquet, hein, le placenta, avec des formules magiques, etc., adressées aux esprits, à Sétan, l'esprit à force maléfique, et puis il va attendre que le placenta coule. Et c'est là où le lien entre l'enfant qui vient de naître et son frère ou sa sœur aînée va débuter. On a là l'aîné qui va atteindre les fonds marins où se passe une vie de tous les placentas entre eux.
C'est-à-dire
qu'il suppose qu'il y a comme un village qui existe au fond de l'eau.
Placenta City.
Voilà, si vous voulez. Et sauf qu'il n'y a pas la pancarte d'annonce d'arrivée, mais c'est ça. C'est tous les placentas sont là, ils vivent leur vie, mais ne sont pas pour autant dissociés de leur cadet. C'est-à-dire qu'en haut, il y a tous les cadets, bien sûr, dans le village réel. Et le placenta va mener sa vie. Mais c'est une vie qui ne va pas être, donc, comme je disais, dissociée du cadet. Pourquoi ? Parce que le Bajo suppose que le lien est toujours constant. Le placenta va venir visiter régulièrement son cadet et l'accompagner dans sa vie. Alors voyez comment l'accueil de l'enfant, le groupe, l'univers, la temporalité, la mère, donc, hein, et l'alter ego, le jumeau, parce que le placenta, il est kakak. Le kakak, c'est l'aîné. Le tamuni, c'est le placenta. Mais c'est la même chose. Il est aîné, placenta, jumeau.
Dites-moi, ce rôle du placenta est présent dans d'autres sociétés ?
Il y a dans d'autres...
Pareil ou différemment ?
Différemment.
Par exemple ?
Le placenta, par exemple, et on sait qu'en dans les aires mélanésiennes, océaniennes, ou même africaines, hein, les aires culturelles, le placenta est, par exemple, mis en terre, enterré, soit au pied d'un arbre, de façon à ce que l'esprit transite par l'arbre, où on sait que... autour d'une maison. On enterre le placenta. Donc on lui prête une force, on lui prête une qualité, disons, mais j'ai l'impression quand même que la continuité de cette qualité, de l'interaction avec le vivant, est très spéciale au Bajo, C'est-à-dire que l'individu, vous, moi, etc., notre vie est quand même dépendante du placenta.
Alors, dans votre livre, vous faites une analyse des rituels Bajo, et puis vous analysez aussi en miroir. Il y a à chaque fois une espèce de petite conclusion en miroir, ce qui se passe dans notre société occidentale. Et on a l'impression que votre village de placenta là, est quand même en miroir interne à la société Bajo elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un double en permanence d'eux qui est sous la mer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a amené à réfléchir à différentes pistes?
Écoutez, cette idée de miroir qui est au centre du livre dont vous parlez, je l'ai plutôt analysé au niveau de nos deux civilisations. Bon. À l'intérieur même de la société Bajo, le jeu du miroir n'est pas entre le Bajo et son placenta. Il n'y a pas de miroir là, il n'y a pas de miroir puisqu'ils ne font qu'un. Il y a un accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'altérité, il y a une unité. C'est un jeu comme ça aussi, hein. Altérité, unité, fusion, c'est le génie Bajo que nous ne savons pas faire. Or, s'il peut y avoir miroir, c'est entre deux Bajo, deux Sama, deux individus dans le village. Pourquoi ? Parce que, déjà, je dis au tout début que le mot Bajo est un nom qu'on leur, nous, à l'extérieur, leur donne. On les appelle les Bajo, mais eux, entre eux, s'appellent les Sama. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir linguistiquement, puisque vous intéressez beaucoup à la langue, c'est le mot Sama lui-même qui veut dire l'identique. Identique. Donc, les gens s'appellent Sama. Tu es l'identique à moi. Et tu es celui à qui je dis tout et duquel j'attends tout. Donc, il y a une relation comme ça qui est une circulation constante d'informations et d'identité qui est en même temps fondé, comme je le disais tout à l'heure, dans cet esprit d'énergie qui circule, d'énergie et qui est la fusion, en fait. Je ne peux exister que parce que l'autre existe et me renvoie à moi-même. Unité, mais aussi miroir. Miroir, si l'autre me demande comment je vais, où je vais, ce que je fais, etc., il me sert à me renvoyer à moi-même. Il est miroir.
Ça n'a rien à voir avec la tradition du double ou de l'ombre en Occident.
Allez-y.
Non, mais je me demandais, aussi les jumeaux, quoi. Les jumeaux, la tradition des jumeaux ou du double ou de l'ombre. Alors, en Occident, il y a toute une littérature là-dessus.
Oui, vous pensez à quoi?
Ah ben, je ne sais pas, les récits fictifs où on traîne son ombre comme ça, comme un double de soi-même.
Oui. Il est très délicat de transposer.
Je sens bien. Moi, je qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Venir vers moi et me poser la question, c'est ce que vous faites. Donc, on est bien calé, quoi. j'ai dit, il est très délicat de transposer parce que d'une part, on n'a pas la méthode, tout ça, c'est sujet à caution, hein. On a quand même des systèmes de valeurs très différents, et puis ça nous empêche de comprendre ce qui nous est dit par cette culture, qui est quand même l'objet même de notre entretien, de l'intérêt que moi je porte à ces gens, du vôtre, etc. Bon. Mais donc ne pas y voir l'idée du double que nous pratiquons déjà. Bon. Ne pas le voir. Mais y voir ce que eux peuvent nous dire.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est-à-dire?
Forcément. J'ai commencé.
Parce que ça s'adresse pas à nous, leur société.
Si on veut l'écouter, oui.
Si on veut l'écouter.
Hein, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'autre, l'aîné en tout cas, le jumeau, le placenta, etc., qui est une métaphore. C'est un choix. D'autres sociétés auraient pu le faire, peuvent le faire. Eux, ils l'ont fait. Ils ont construit leur imaginaire, en tout cas, entre autres, autour de ça. Ils auraient pu ne pas le faire. Donc, un imaginaire qui n'est pas celui du double. C'est pas celui du double. Je prends un autre exemple. Je vais parler de l'adoption tout à l'heure, avant l'émission. Bon. Qui a un lien direct avec l'enfant, le jumeau, le placenta, la conception de l'enfant, l'accueil de l'enfant, le vécu dans une famille, etc. Dans l'adoption, quand il y a des jumeaux, par exemple, chez nous, et ça répond, je pense, à votre question, par le biais des jumeaux et non pas du double, quoique, quand il y a des jumeaux, déjà, il y a un rituel qui consiste à payer par une aiguille ou une pièce de monnaie ou quelque chose de symbolique en tout cas, l'esprit du deuxième enfant, pour qu'il n'y ait pas de problème. Chez nous, jeu de miroir, on aurait tendance à ne pas les séparer. On dit... Ils sont jumeaux, ils sont interactifs, bon, l'un dépend de l'autre, ce qui arrive à l'un peut arriver à l'autre, donc ne courons pas de risques, laissons-les ensemble et ne les séparons pas. Ne les séparons pas. Chez les Bajos, transposition des valeurs, mais de regard en fait, ils font l'inverse. Ils font l'inverse. Jumeaux, on va les séparer. Pourquoi ? Parce que si l'un est malade, au moins que l'autre ne le soit pas. Donc ce jeu de miroir est compris et conçu un peu différemment, donc j'ai pris l'idée des jumeaux pour répondre à la problématique du miroir, il est conçu différemment. Il y a une autre vision des choses, il y a une autre vision de l'être humain, une autre vision des rapports entre les individus.
Alors, dites-moi, puisque vous avez abordé cette question de l'adoption des enfants, dans votre livre, vous racontez qu'ils peuvent à un moment donné circuler d'une maison à une autre et se faire adopter par qui ils veulent sans que ça pose problème. C'est quoi cette histoire ?
Oui, c'est une des histoires qui nous déstabilise dans notre société. Nous sommes habitués, nous pratiquons malheureusement l'adoption tous azimuts et de façon un peu plus que désordonnée et préjudiciable parfois à l'enfant. Bon, à son devenir en tout cas. Chez les Bajos, il ne s'agit pas d'adoption, mais en gros, l'enfant, au lieu d'être choisi par les parents, il choisit ses parents.
Bon. Il porte le nom de qui alors ?
Non, attendez.
J'attends.
C'est le lieu de vie, parce que vous m'avez dit l'adoption, etc. Bon, je veux dire le lieu de résidence. Bon. L'enfant choisit son lieu de résidence vers 7, 8 ans, 9 ans, enfin bon. Il choisit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut décider d'aller vivre chez son oncle, sa tante, sa grand-mère, etc. Bref, hein, une autre maisonnée où vit toujours une famille étendue, 2, 4, 5, 8 personnes, etc. Ou en tout cas une famille, une maisonnée, un lieu de vie où circulent plein de personnes, où dorment certains, partent, reviennent, etc. Plein de gens. Donc lui, il peut choisir à l'âge de 7-8 ans, et ce n'est pas du tout contradictoire, ni aux relations affectives qu'il a avec ses parents biologiques, ni aux coutumes, etc. Au contraire, c'est une coutume prévue, c'est un droit donné à l'enfant que de choisir son lieu de résidence. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais au tout départ, l'enfant choisit ses parents. Nous avons là aussi, comme pour les jumeaux tout à l'heure, un système complètement inversé par rapport au nôtre. Alors un autre exemple assez intéressant par rapport à l'adoption, c'est, moi il me semble fondamental, c'est un tout petit détail mais il me semble fondamental, quand dans la société Bajo, bon, quand un couple n'a pas d'enfant, il dérange un tout petit peu la société. Bon. Il dérange pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas lui donner de nom, on ne peut pas l'appeler. Pourquoi ? Parce que aussitôt qu'un couple a un enfant, ils perdent leur nom, ils prennent le nom de l'enfant. C'est-à-dire on les appelle père un tel, mère un tel. Bon. Père Max, mère Max, par exemple. Bon. Et à à tout jamais, ils perdent leur prénom. Tout le monde les appellera comme ça. Même entre eux, ils s'appelleront maman un tel et papa un tel. Bon. Il y a même des amendes qu'on peut payer si jamais on ne s'appelle pas comme ça. Donc, un couple qui n'a pas d'enfants, comment va-t-on les appeler ? On pallie au problème, puisque socialement c'est prévu, bien entendu, en les appelant Kuto ou Aya, qui veut dire l'oncle ou la tante, plus âgée que la tante maternelle ou plus vieille, etc. Il y a des termes spécifiques, pour qu'ils aient un nom. Terme d'appellation. Absolument indispensable. Donc, un couple qui n'a pas d'enfant, est-ce qu'on va, chez les Badjou, permettre, faciliter le fait qu'un enfant aille vivre chez eux, au nom de la règle de résidence dont je parlais tout à l'heure, où l'enfant choisit. Est-ce qu'on va le faire ? Non. C'est là où une limite est donnée, une attention, une vigilance est accordée à cette coutume. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les Badjou partent de l'idée que si le couple est seul et qu'il y a un enfant qui va vivre là-bas, ils peuvent se l'approprier. Ils peuvent faire en sorte que cela devienne leur enfant du fait qu'ils n'en ont pas. Et on revient dans le cas de figure de la société occidentale dans laquelle les couples cherchent éperdument à résoudre un problème.
Dites-moi, quand est-ce qu'il est nommé l'enfant ? Quel moment ?
Il est nommé quelque temps après sa naissance.
Est-ce qu'il y a un lien entre les prénoms du placenta et le prénom de l'enfant ou pas du tout ?
Non, il n'y a pas de nom de placenta.
Il n'y a pas de nom pour le placenta ?
Non, il n'y a pas de nom pour le placenta. C'est un frère aîné, jumeau, il n'y a pas de nom. Par contre, le nom de l'enfant est donné quelque temps après.
Il y a une cérémonie pour ça ?
Non, pas de cérémonie pour donner le nom. Par contre, le nom lui-même, donc ça peut prendre un certain temps, on le cherche, etc. Puis on décide. Moi, mon premier séjour et quelques jours après mon arrivée dans le deuxième village où je suis resté le plus longtemps, il y a un accouchement, donc familiarité avec la couchée, avec la famille, etc. Et la couchée à qui j'avais parlé, puisqu'elle m'a demandé de ma famille, de ma sœur, etc. Je lui ai dit, mais ma sœur vient d'avoir son premier enfant qui s'appelle Johanna. Et ils ont décidé d'appeler leur enfant Johanna. Donc ils ont pris le prénom, mais plusieurs jours après. Et le prénom, lui, peut être un prénom proprement Badjou, il peut être tout simplement un prénom relatif à des événements. Par exemple, on peut l'appeler pluie, parce qu'il pleuvait à ce moment-là. Il peut y avoir un choix totalement.
Vous avez dit qu'un couple qui n'a pas d'enfant on lui interdit d'adopter un enfant parce qu'il risque de vouloir le posséder ou de l'approprier. Or, il y a un récit qui est raconté au moment de la naissance, qui est fondamental, dont il faut qu'on parle maintenant, Ikiko, qui raconte des choses que vous allez essayer de nous raconter à votre tour, où justement, il y a une mère qui tient trop à une théière.
Oui, tout à fait. Alors,
racontez-nous cette histoire.
Tout à fait. Alors, en deux mots, parce qu'elle est très longue, c'est une histoire, mais c'est un conte pour enfants. C'est un conte pour enfants qui est en même temps le mythe fondateur, le mythe d'origine, ce qui est assez extraordinaire pour nous. Mais pour les Badjou, non. Pourquoi ? Parce que le lien et la place donnée à l'enfant, fondamental, donc il était tout à fait évident que le mythe fondateur soit quelque chose qui soit destiné à l'enfant. L'histoire, donc, est courte, parce que c'est un chant, et il est chanté. Ce mythe est chanté, et il dure très longtemps. C'est l'histoire d'une mère qui interdit à ses enfants d'emporter une théière en terre par ses enfants jumeaux quand ils partent à la pêche. Mais un jour, ils dérogent à la règle et ils emportent la théière. Et en mer, alors qu'ils pêchaient, le fil de pêche s'enroule autour de la théière, fait tomber la théière qui se casse. Ils sont désespérés, ils rentrent au village, mais ne veulent absolument pas revoir leur mère de peur qu'elle s'énerve contre eux, hein, qu'elle les sermonne. Et bon. Elle les attend. La sœur de ces jumeaux finit par aller les chercher, les trouve et les oblige à rentrer. Chez leur mère. Une fois chez leur mère, ils ne veulent pas avouer, ils finissent par avouer que la théière est cassée. La mère les répudie. Ils partent désespérés en mer pour mourir. Ils rencontrent là une société qui existait, donc c'est un élément historique réel, une société des Tobelo, qui étaient des chasseurs de têtes, des marins. Une grande bataille s'engage et l'aîné meurt. Le cadet qui a gagné contre 1000 avec son frère aîné est vivant et puis part dans d'autres villages, Badjo, seul. Il grandit, il se marie. Et puis un jour, il y a son oncle qu'il avait vu petit, qui trouve qu'il ressemblait à cet enfant qu'il avait connu. Et de plus en plus, on reconnaît en lui, chez lui, des ressemblances avec cet enfant, dont la mère n'entend plus parler d'ailleurs, bien sûr, ni la sœur. Et un jour, sa sœur, le croise et lui dit « Mais tu ressembles beaucoup à mon frère que je ne vois plus depuis très longtemps ». Elle rentre chez elle, elle en parle à sa mère qui lui demande, parce qu'elle est très très malheureuse, d'amener cette personne, ce jeune. Il refuse donc de retourner voir sa mère, puisqu'il sait que c'est sa mère, et au bout du compte, il accepte, et il emmène femme et enfant. Entre d'abord sa femme, ensuite son fils. Sa maman voit donc son petit-fils et trouve une ressemblance extraordinairement forte avec son propre fils, lequel entre finalement et elle le reconnaît. Il s'approche et c'est elle qui lui demande pardon. Donc mythe fondateur dans lesquels plusieurs éléments fondamentaux sont très importants. Un, les jumeaux, pour revenir à l'histoire des jumeaux, où le frère aîné meurt, donc le placenta que l'on immerge. La terre en terre qui se brise, donc peut-être symboliquement la terre natale qu'ils ont quittée en tant qu'hommes de la mer, ils sont devenus. Le lien à la mer qui les rejette. Et puis des éléments, des noms géographiques réels qui ont existé, mais en fait une histoire dans laquelle l'enfant n'est pas responsable, n'est pas fautif, ne fait pas de bêtises, c'est pas lui qui est perturbateur d'une continuité, si vous voulez, de vie du monde adulte. Au contraire, et encore une fois, renversement des choses chez les Badjo, c'est l'aîné, le parent, qui est responsable et qui... Bon. Alors pourquoi ce conte? Pour bien entendu faire vivre l'histoire, transmettre la mémoire, les liens, les repères, etc. Mais aussi, et on revient à la projection dans l'avenir du bébé qui venait de naître, pour montrer aux jeunes à qui on chante cette histoire, la grand-mère chante cette histoire pour l'endormir. Donc comment il intègre tout cela, sans le savoir, comment la responsabilité du parent est grande, de façon à ce que lui, plus tard, respecte ses enfants. Donc on sensibilise dès le départ l'enfant au rôle de parent.
Il y a un aspect dans le récit qui est aussi lié à une espèce de catastrophe originaire qui a fait qu'ils sont allés vivre sur l'eau, il faudrait peut-être en dire deux mots.
Oui, de façon assez symbolique, puisqu'on ne sait pas historiquement ce qui s'est passé. Bon, il s'est passé, je pense, un tsunami. un énorme tsunami, dans quelle région, je ne sais pas, dans l'océan Indien, qui les a poussés à partir, à se déplacer. Alors bon, était-il à ce moment-là une population, des groupes qui vivaient dans des pirogues, mais sur le rivage, donc qui allaient sur Terre, et qui, Terre qui a été complètement ensevelie et qui n'avait plus que l'eau qui a déclenché leur mode de vie, ou était-il déjà nomade et donc qui les a poussés, tsunami, qui les a poussés à migrer vers le sud. Donc un tsunami original qui est symbolisé dans ce conte dont on vient de parler, Ikiko, puisque la théière est cassée en mer. Donc là, le rapport des deux éléments. Les Badjos sont partis en vagues migratoires vers le sud. Sud partant du nord, le nord pouvant être le nord de la Malaisie ou plus haut, le Cambodge, le Vietnam, toute cette région, et qui sont descendus en vagues migratoires sur des centaines d'années, peuplés les Philippines du Sud, l'Indonésie et le reste.
Ce bébé à qui on raconte cette histoire, il comprend rien.
Mais je crois qu'on comprend tout. On comprend tout. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant peut-être. Hein. C'est-à-dire que ce que nous avons mis, nous mettons, nous ne voulons pas mettre de temps à comprendre, que l'enfant dans le monde fœtal sent, capte, interprète, enregistre et intègre des choses, comme de façon naturelle, les Badjos le pratiquent. Il le pratique, puisque dès très jeune, on lui chante cette berceuse, on lui parle de tout cela, et on considère que, et on revient à l'accueil de l'enfant, question de départ, on considère que, puisqu'il y a eu la relation entre le placenta, le frère aîné et l'enfant, il y a eu communication, il y a eu vie. Dans le ventre de la mère. Donc on confère à l'enfant une vie psychique carrément, que l'on souligne par la suite, puisqu'on lui prête une projection dans l'avenir, en fait, hein, on lui prête. Bon. Et on lui parle, on lui chante ce mythe fondateur, parce qu'on sait qu'il est capté. Pourquoi? Parce que pour le Badjo, il n'y a pas d'âge où on est enfin en état de comprendre. Nous attendons, nous, dans notre civilisation, que l'enfant ait, je sais pas, un an, deux ans pour parler, X années pour pouvoir marcher, X temps pour intégrer des schémas que les neuropsychologues nous annoncent, etc., etc., etc. Et cela à travers l'apprentissage par le corps, l'esprit, la langue, l'échange, plus tard dans le système éducatif scolaire, etc., nous partons de l'idée que l'enfant n'est pas capable avant tel âge ou avant l'apprentissage de quelque chose. Les Badjos, pas du tout, inversion du système. Le Badjo peut tout comprendre, tout savoir.
Dites-moi, il y a aussi un rapport à la mort qui est tout à fait intéressant. Vous racontez dans votre livre, à un moment donné, une cérémonie de mariage où il y a le père de la mariée qui reçoit de sa belle-famille un drap dans lequel il sera enseveli plus tard. Alors comment vous avez analysé ça dans le livre comme étant une espèce d'anticipation de la mort? Moi je l'ai entendu qui fait que la vie est plus forte, qu'il n'appartient plus à sa propre famille, ce père, d'une certaine façon. Quand il laisse sa fille, il y a une partie de lui qui appartient à sa belle famille, d'une certaine façon. Il y a une espèce de mort qui est tout à fait présente là, de sa propre personne. Donc la vie sociale, l'avenir est plus important. C'est un peu comme l'anticipation du nombre d'enfants que l'enfant aura. Est-ce que c'est des choses comme ça que vous diriez?
Il me semble que dans le dans ce regard, hein, cette analyse que vous venez de faire, il y a des choses importantes et intéressantes. Hein. Il semble par contre que l'idée de rupture, c'est-à-dire procure mon des fiançailles dans la dot, c'est un élément obligatoire, ce dont on parle, le tissu blanc, que la famille du garçon apporte à la fille, il y a ce tissu blanc qui servira plus tard effectivement à entourer le corps comme ça avant de le mettre en terre. Bon. Alors, vous y voyez une façon de donner vie à la vie, de souligner la vie. Disons, non, c'est pas ce
que... Oui, non, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je ressens dans ce rituel, c'est que c'est une manière de dire que, bon, la mort de cet homme est déjà anticipée et que, d'une certaine façon, ce qui compte, effectivement, c'est la vie de la famille ou de la société. C'est constamment présent, ça, dans tout ce que vous racontez, depuis l'accouchement jusqu'à la mort. C'est peut-être plus clairement dit comme ça.
Oui, 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 bien sûr. Là, oui, oui. Donc on va souligner toujours cette idée de projection, de donner vie à la vie. Le parent perd son nom au profit de la descendance, et non pas au niveau de l'ascendance. On l'appelle père un tel, et non pas père de, un tel fils de. On ne dit pas fils d'eux, comme dans d'autres civilisations, mais père d'eux. C'est-à-dire projection dans l'avenir. Idem pour ce dont on a parlé au sujet de l'enfant, projection dans l'avenir, sa temporalité à lui. Et dans ce tissu que l'on offre, il y a également cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le garçon qui apporte ce tissu dans la dot, il va symboliser une continuité, une projection de l'avenir du couple qui vient de se créer, en fait. Une continuité, mais par la mort symbolique des parents de la fille. C'est un peu ce que vous vouliez dire, je crois. Et cet apport de ce tissu-là, moi je pense qu'il faut le rapprocher aussi par exemple, des deux autres aspects culturels que j'ai signalés, la projection dans l'avenir de l'enfant, la perte du nom, puis d'autres choses aussi. C'est fondamental pour les Badjo. On pense à l'enfant, à la descendance, à l'avenir. La mort n'a aucune espèce d'importance. Un mort, quelques jours après, il s'oublie. On ne célèbre pas, on ne... Rituellement, oui, parce qu'ils sont musulmans et qu'il faut qu'ils fassent des repas cérémoniels, le 7e, le 30e, le 40e jour, je veux dire, au bout d'un an, etc. Oui, mais selon la coutume originelle Badjo, et puis le vécu dans le village, un mort, il était mis autrefois dans une pirogue, qu'on laissait dériver, point. Peut-être qu'autrefois aussi, on l'immergeait.
Alors, au moment de la paternité, je m'appelle Père Max, vous m'avez appelé comme ça tout à l'heure, vous devenez Père François Robert, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd son Père Déborah, mais ça veut dire quoi? Qu'on perd son nom d'enfant? Ou qu'on est encore plus enfant? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, tout le jeu, encore une fois, des Badjo consiste à être très clair sur tout ça et ce sur quoi nous sommes d'une confusion totale. Totale, c'est-à-dire, est-ce que je peux rester enfant jusqu'à quand et comment, etc. On ne me le permet pas, donc je me l'autorise d'une façon un peu régressive, etc., etc. Bon, enfin, c'est un brouillage de repères catastrophique chez nous. Le Badjo sait positionner tout ça et sait s'amuser. Pourquoi? Parce que dans le même temps qu'il considère que, une fois qu'il a eu son premier enfant, il est appelé par le nom de son enfant et il devient père un tel, donc... On peut supposer, comme vous le disiez, je ne suis plus avec mon prénom d'enfant, mais je suis avec demain le prénom de mon enfant, donc je deviens véritablement père avec mon statut de père, eh ben, oui, peut-être, bien entendu. Et toute la profusion de choses que je viens d'apporter, qui souligne l'importance donnée à l'enfant, est totalement conciliable avec l'idée que l'individu reste toujours un enfant. Pourquoi, rappelons-nous, le placenta. Le placenta. J'ai toujours un lien avec mon placenta qui m'a fait naître, donc je reste aussi dans mon statut de lien très spécifique à ma naissance.
Quand il y a des problèmes, on met de la nourriture et on l'envoie en mer vers le placenta.
Absolument, absolument. Quand le placenta vient et s'amuse avec son cadet ou ne permet pas de bonne pêche, etc., on lui fait une petite offrande, on lui donne à manger.
Alors, dites-moi, il y a quand même une solidarité de destin là, entre le placenta et puis l'enfant tel que nous le connaissons, nous. Il y a une espèce de destin qui est scellé avant ou au moment de la naissance?
Et ben les deux. Les deux, puisque au moment de la naissance, c'est évident, ce niawa dont je parlais, l'esprit, hein, la force vitale, qui l'ont fait circuler du placenta à l'enfant, montre bien qu'il y a un lien dès la naissance.
Alors donnons un peu la parole à votre placenta. Vous êtes un juif d'Alexandrie, du Caire, excusez-moi. Vos parents étaient judéo-hispanisants. Vous parlez de votre enfance au début du livre, hein. C'est pour ça que je me permets d'en parler aussi, je pense que bon, c'est évidemment quelque chose qui est très présent. Et alors vous faites un lien dans votre livre vous-même entre cette enfance au Caire et puis ce que vous avez dû ressentir comme nouvelle sensation étrange quand vous êtes arrivé chez les Badjo. Quel lien faites-vous entre cette partie de votre histoire de votre enfance et puis ce que vous avez vécu ensuite avec cette autre société?
Quand vous dites un lien, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que j'ai eu l'impression que, la langue judéo-espagnole, qui était pour vous une langue perdue au niveau vernaculaire, vous faisiez rencontrer une autre langue que vous appreniez et qui était extrêmement, pour le moins, limitée géographiquement et même numériquement au niveau de la population qui la parle, que vous enseignez même à vos enfants, si on suit ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai senti qu'il y avait une espèce de lien entre votre enfance, votre rapport à votre histoire, et puis ce que vous avez joué là, ou ce que vous continuez à vivre quand vous allez là, ou d'ailleurs ailleurs, puisque là vous êtes en partance pour l'Afrique. Est-ce que c'est des choses que vous pouvez un peu nous expliquer plus?
Le lien linguistique, pas tellement, mais je crois que les choses qui m'a beaucoup sensibilisé, d'abord, c'est de retrouver un pays dans lequel les rapports sociaux, le climat, etc., m'a fait un peu repenser à mon pays natal, hein. C'est physiquement, matériellement, humainement aussi. Et par la suite, c'est la question de la disparition d'une culture. La question de la disparition d'une culture qui m'a poussé quand même à faire des rapprochements entre une culture judéo-espagnole, ou en tout cas une culture judéo-égyptienne que j'ai eu autour de moi, hein, autour de moi, dans ma famille, etc. Et cette culture fragile des nomades de la mer. Deuxième élément aussi qui n'a pas été sans importance, c'est le fait que entre la culture des Badjo et la culture judéo tout court, finalement, on a affaire à deux peuples nomades. Il y a une dimension historique, il y a une dimension du rapport entre la société et son histoire, qui est très intéressante, qui m'a semblé, au tout début de mon terrain, parlante, qui m'a sans doute attiré, pour essayer de qui m'a permis, je reviens à la question de départ que vous me posiez, c'est l'adoption par ces gens-là, qui a certainement joué dans un langage métaculturel, disons, entre eux et moi, qui a permis une adoption, une adaptation et une adoption par la suite. Ce sont des choses comme ça qui m'ont amené à faire des rapprochements. Je me suis dit, voilà.
Il y a quand même cette question du père aussi, puisque il n'y a pas un père au départ qui soit là, qui nomme tout le monde, qui permette à la société de fonctionner. On devient père dans la société Badjo, on perd même son nom d'enfant. Le père doit être produit, il n'y a pas un mythe qui dirait qu'il est là au départ. Dieu n'a pas créé comme ça l'homme et la femme au départ. Le père, c'est l'enfant qui doit le devenir et le produire. Moi, c'est ça que j'entends, surtout dans ce que vous racontez. Et ça, c'est vrai chez nous aussi. Au fond, c'est de ça dont nous parlons, père François Robert.
Père Déborah.
Père Déborah. Vous pouvez être aussi votre propre père. Et c'est aussi une tâche qu'on a tous.
Oui, oui. Encore une fois, je veux... souligner que le rapport au passé, à l'ascendance n'est pas important, n'est pas très important. On ne se souvient pas, on ne fait pas des retours en arrière. Le culte des ancêtres, il n'y en a pas. Le rappel de son grand-père qui a fait ceci, cela, on n'en parle pas. Pas du tout. Tout ça est assez effacé. Par contre, ce que vous disiez de l'absence, entre guillemets, du père, en fait, hein, puisque vous disiez on perd son nom au profit de celui de son enfant, etc., etc. Il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans quand on le voit par son contraire, mais son miroir, hein, en tout cas par la mère, l'importance de la femme. De la mère, puisque dans Ikiko, dont j'ai parlé, ce conte, ben, il y a la mère, il n'y a pas de père. On ne parle pas du père, où il est, le père.
On nous dit qu'il n'y a pas de père, il y a des oncles.
Voilà, il y a des oncles.
Il y a les oncles paternels et maternels, c'est raconté.
Oui, 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 c'est très important, comme beaucoup de sociétés traditionnelles. Et par contre, la population Badjo, la société Badjo, s'identifie. Je pense, moi, à travers certains termes, certaines histoires, s'identifie beaucoup à la mère. Et à l'enfant aussi. D'abord l'enfant. C'est un peuple qui se dit comme un enfant, qui est désespéré, qui est comme un morceau de bois sur le rivage, qui est pris par les vagues et qui est ramené, et qui dit à sa mère, mais si tu veux de moi, prends-moi vraiment. Ne me laisse pas après. Cette identification avec l'enfant, mais aussi avec cette dimension féminine.
Est-ce qu'ils ont peur de disparaître ?
Les deux, oui et non. Non, parce qu'ils croient. Ils croient encore en leur culture. Ils croient encore à leur identité. Parce qu'ils croient à cette fusion du Sama avec de l'autre Sama. Le rapprochement, la cohésion. Ils sont en but à un programme de sédentarisation, très important et assez grave, qui prévoit de les amener sur Terre. Donc là, c'est ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire que l'élément identitaire, c'est bien entendu la langue, mais aussi l'environnement. Ils sont adaptés à l'environnement marin, et une fois sur Terre, tout est à faire.
Bien, je remercie beaucoup François Robert Zacco pour cet entretien. Je rappelle donc le titre de votre livre, Un autre regard sur le monde, aux éditions Audibert, paru en 2006, ainsi que votre émission sur Aligre FM 93.1 en région parisienne, le mercredi matin de 9h30 à 10h, qui s'appelle aussi Un autre regard sur le monde.
Merci beaucoup de m'avoir invité.